L'inondation qui secoue la province de l'Ituri depuis quelques jours a occasionné plusieurs morts. La société civile de la chefferie de Baéma Nord dit avoir découvert dans la nuit de vendredi à samedi plus d'une centaine de corps dans la brousse. Cette information est confirmée par des sources proches de l'armée. Comment analyser cette situation? C'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Mohamed Boulay, il est sénateur élu de la province d'Iba Ouélé, il est vice-ministre honoraire de la Défense et général à la retraite. Bonsoir honorable Mohamed Boulay.
Bonsoir monsieur Guy Maté, je voudrais corriger que je suis député national par option et non au Sénat.
Merci beaucoup pour cette précision. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme basé à Kisangani. Il est aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonsoir, monsieur Dismas Kitenge.
Bonsoir.
Et Timothée Chaombo Chucha, il est chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Bonsoir, monsieur Timothée Chaombo Chucha.
Bonsoir cher ami et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Une nouvelle découverte macabre a eu lieu la nuit de vendredi à samedi dernier dans la localité de Tché, en territoire de Djougou. La société civile de la chefferie de Baéma Nord, qui l'a annoncé, parle au total d'environ 140 corps découverts dans cette entité. Information confirmée par des sources proches de l'armée. Il s'ajoute à 21 nouveaux corps découverts le même jour dans les localités de Paoui, Tchinji et Zandro dans le groupement d'Endro. Martial Kizia Biamungu pour les détails.
Ces corps ont été découverts par la population locale dans la brousse après l'attaque des assaillants armés, des fusils et armées blanches la nuit des mardis à mercredi dernier. Selon la société civile de Baéma Nord, c'est l'armée qui a facilité cette découverte un jour après l'incursion. Son président Banza Bavi Charité indique que ce chiffre est provisoire car selon lui, plusieurs personnes sont encore portées disparues.
Les corps qu'on a vus seulement étaient au nombre de 140 et puis il y a encore d'autres corps qui ne sont pas fouillés dans des Bruce, d'autres cherchent à corps. Mais Vendro, on avait déjà découvert 21 corps. Nous avons demandé au chef d'état-major général Angé, chargé de l'opération et renseignement qui séjourne ici en province de l'Ituri, de déployer forces militaires sur terrain pour sécuriser la population et pour enterrer ça dans une fosse commune et jusqu'à présent, ce qui n'est pas encore fait.
Il redoute que cette situation soit à la base de maladies dans ce milieu, vu que certains corps sont déjà en état de décomposition très avancé. D'autres sources, dont la communauté Lendou, sa réserve fait de confirmer ses nouveaux découvertes macabres. Son porte-parole, Jean-Marie Ndjaza, parle cependant d'une situation très inquiétante si ces nouveaux décomptes s'avéraient vrais. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Kiza Biamungu. Mohamed Boulay, député national, vous êtes vice-ministre honoraire de la Défense et général à la retraite. Et comment vous comprenez cette situation d'insécurité qui prévaut une fois de plus en Ituri?
Oui, je dois d'abord commencer par saluer tous les colibataires et ainsi que de présenter une fois de plus nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éplorées et particulièrement l'Assemblée provinciale de l'Ituri, le gouverneur de province qui n'a pas encore son gouvernement et au territoire de Djougou, de manière particulière à la chefferie Baéma Nord et surtout au groupement d'Endro. Ce n'est pas la première fois que nous analysons cette situation, mais il faut d'abord émettre des hypothèses pour arriver à cela. Est-ce que s'agit-il des conflits communautaires? S'agirait-il des conflits fonciers? S'agirait-il des conflits ethnico-politiques? S'agirait-il des conflits liés à la décentralisation ou des frontières et tout ça, ou des conflits armés? S'agirait-il tout simplement des conflits ethniques en Ituri, comme on a toujours fait, et ou peut-être s'agirait-il des groupes armés? Mais quelles sont les causes réelles depuis 2000 jusqu'à nos jours et qui fait que des tueries? Je suis ahuri une fois de plus parce que cette chefferie Baéma Nord a quand même 12 groupements. Et les territoires des Ndjougou, c'est 8184 kilomètres. Quand je vois si les cartes par devant moi, ce sont des groupements ou des chefferies à l'intérieur et d'autres sont sur le bord du lac Mobutu ou lac Albert. Et je suis étonné que on découvre 140 corps. Et en avant, on ajoute encore 21 corps en cet état-là.
Qui sont ramassés dans la brousse.
Qui sont ramassés, mais la société civile ne dit pas qui dirige cette chefferie. Qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a appris? Ce sont quand même des villages regroupés, bien qu'isolés, qui est 140 morts. Tous ne peuvent pas appartenir à un même village. Les voisins, ceux qui pourront échapper à cette mort, iraient certainement donner alerte. Comment que cela peut arriver? Et maintenant, quelles sont les dispositions prises au niveau de la province pour identifier?
Vous posez vous-même la question, comment cela est arrivé? Pourquoi l'alerte n'a pas été donnée? Est-ce qu'on ne peut pas parler de la faillite, n'est-ce pas, des services des renseignements?
La faillite des services de renseignement. Mais ces services de renseignement ont aussi des antennes dans les chefferies, même dans les villages. Laissez-moi vous dire d'expérience, parce que j'ai été à une certaine époque gouverneur de cette province, ces localités de Rindou et tous ces groupements ont vraiment, il y a une forte pression des populations, et forte pression démographique, je voulais dire. Et donc, si maintenant au niveau de village, on ne sait pas alerter le chef de chefferie quelque part. Si de là, on ne sait pas alerter la police. Si de là, alors l'information ne peut pas parvenir. Donc, au niveau de la province et de la province ici, parce que le domaine de sécurité et de défense, c'est un domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement central. Et donc là, il faut que l'information aille. Il faut qu'on anticipe. Il faut certainement organiser un système d'éveil, parce que là, c'est fréquent depuis 2000 jusqu'à nos jours. Et ça, cela ne s'arrête pas. On ne fait que déplorer. Les corps sont en état, mais on ne sait pas les identifier. Quelles sont les mesures localement prises pour qu'on identifie et qu'on puisse enterrer dans la dignité ces corps?
Selon la société civile de la chefferie de Mahema Nord, les victimes se retrouvent dans la plupart des cas dans les zones habitées par les ressortissants de l'ethnie Hema. Et honorable Mohamed Boulou, ne sommes pas nous en train d'assister une fois de plus à la résurgence du conflit ethnique entre les deux communautés Hema et Lendu? C'est vrai que vous avez émis un certain nombre d'hypothèses. Vous vous posez la question de savoir s'il s'agit d'un conflit intercommunautaire, un conflit foncier, politique, un conflit armé. Est-ce qu'il ne s'agit pas une fois de plus de ces conflits entre Hema et Lendu?
Oui, c'est bien d'habiller cela, parce que depuis 2000, c'est là, moi-même, j'ai, pendant une certaine période, j'ai eu à gérer cette situation. J'ai failli même mourir en revenant de Harou pour mettre fin, pour rétablir l'ordre dans ce qu'ils avaient appelé la chasse aux sorciers et empoisonneurs. Mais c'est fréquent. Cette hypothèse-là peut se vérifier. Mais les conflits ayant comme acteurs d'un côté les Hema, du Djougou, et de l'autre côté les Lendu, ne datent pas d'aujourd'hui. On a déjà organisé pas mal de bazars pour régler ces problèmes avec des accords signés, mais pensant qu'on a enterré définitivement l'âge de guerre pour ce type de conflit, mais il y a, comme vous dites, ça revient encore une fois de plus. Maintenant, avec tout ça, est-ce que ça n'a pas une autre connotation économique, repositionnement, avec ce qui est là-bas? Notamment, nous attendons dire ça aussi, que le pétrole du lac Albert ou lac Mobutu, maintenant, il y a la quête de repositionnement économique et politique et tout ça, entre les acteurs des deux communautés. C'est pourquoi, pour régler ces problèmes, nous sommes à Kinshasa en train d'analyser cette situation sur la radio Capi. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait que localement, les institutions provinciales s'approprient. Et au niveau aussi du système de défense, les forces armées, qui a cette partie, c'est dans la troisième zone de défense.
La troisième zone de défense couvre 7 provinces, dont l'Ituri. Il faudrait des états généraux pour maintenant permettre à ce que territoire par territoire, chefferie par chefferie, où il y a ce type de problème, qu'on puisse identifier les acteurs et les motivations réelles de cette continuité. Et la liste vraiment est très macabre avec
140 personnes tuées. À votre avis, ce massacre peut profiter à qui?
Maintenant, je ne saurais pas le dire. Il faudrait que les services de renseignement qui sont qualifiés pour ce type de choses, avec aussi la société civile et les responsables, toutes les communautés se mettent. Parce que je refuse de croire qu'on ait tué 140 personnes et que les gens se promènent en face des problèmes de santé pour s'exfiltrer, pour aller et commettre beaucoup de jours de ne pas mettre la main sur les premiers suspects. C'est quand même étonnant.
C'est étonnant. Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, ONG de défense des droits de l'homme, basé à Kisangani. Vous êtes aussi vice-président honoraire de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Dans l'émission Dialogue entre Congolais de jeudi dernier, vous avez analysé cette situation par certains faits, notamment la persistance des conflits armés dans cette province, mais aussi l'inefficacité des forces de défense de pouvoir pacifier, n'est-ce pas, cette partie du pays. Et pourtant, Monsieur Dismas Kitenge, pourtant, on sait que cette province a connu une certaine accalmie entre 2004 et 2017. Et à votre avis, qu'est-ce qui était à la base, n'est-ce pas, de cette accalmie à laquelle on avait assisté pendant cette longue période?
À mon avis, il y a eu quelques facteurs. Le premier facteur, c'était la volonté politique dans le chef des autorités congolaises à plusieurs niveaux de pacifier cette région et les moyens qui ont été mis en place pour pacifier. Il ne faut pas oublier, Guy Maté, qu'il y a eu un déploiement important de dispositifs sécuritaires dans cette région. Il y a eu aussi le déploiement massif des troupes de la MONUSCO dans cette région. Ça, c'est le premier facteur, à mon avis, cette volonté et ce déploiement de moyens nécessaires, moyens logistiques, moyens humains, voilà. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, à mon avis, c'était aussi l'accompagnement des populations. Cette volonté qu'il y a eu dans le chef des populations de pouvoir avoir la paix. Et troisième élément, à mon avis, c'était aussi cette réponse judiciaire. Il y a eu des réponses judiciaires à plusieurs niveaux. Il y a eu au niveau national, hein, il y a eu de la justice qui a essayé de fonctionner. Il y a eu aussi les actions de la Cour pénale internationale qui étaient importantes avec la poursuite, les transferments de Thomas Lubanga, Mathieu Ngudjolo, Germain Katanga, qui étaient perçus à l'époque comme de principaux chefs de milice de ces régions, de cette région qui ont été à la base de ces conflits, tout ça, qui ont été, donc il y avait ça. Il y avait des réponses judiciaires au niveau international, à travers la Cour pénale internationale, et des réponses judiciaires au niveau national, qui ont eu quand même un effet de dissuasion, Ça, c'était important. Et un autre point important, c'était cette coopération régionale qui a été intensifiée, où, nommément, on a cité le pays voisin qui ont joué un rôle d'une manière ou d'une autre à ces conflits-là, à travers la fourniture des armes, à travers le soutien à ces groupes armés qui avaient leur base arrière dans certains pays de la région sous-régionale, tels que l'Ouganda, tels que le Rwanda. Et ces pays ont été épinglés sur le plan international et qui ont été surveillés et qui ont signé pas mal d'accords de paix. Et cette surveillance de la communauté internationale a apporté aussi une solution. Il ne faut pas non plus oublier cette transition politique qu'il y avait, je l'avais déjà mentionné. Et cette documentation de la surveillance accrue de la société civile à travers la la documentation de violation des droits humains à travers les poursuites qui ont été engagées par-ci par-là. Tous ces effets-là ont entraîné qu'il y ait cette paix relative, cette accalmie. Aujourd'hui, il n'y a plus cette pression-là. Pression, il ne faut pas non plus oublier.
Oui, Dismas, vous parlez, n'est-ce pas, des facteurs qui pourraient, n'est-ce pas, nous aider à comprendre pourquoi il y a eu cette accalmie. Vous parlez notamment de la volonté politique, du déploiement massif des troupes de la MONUSCO, de l'accompagnement de la population, des réponses judiciaires, n'est-ce pas, par rapport aux poursuites qui ont été initiées, la coopération régionale qui était intensifiée. Et pourquoi, à votre avis, ces conditions ne sont plus démises aujourd'hui?
Aujourd'hui, s'il n'y a pas toutes ces conditions, il faut épingler le premier facteur, c'est la période qui a précédé les élections. La période qui a précédé les élections du 30 décembre en RDC était une période d'agitation politique, une période d'instrumentalisation de beaucoup de choses, une période de positionnement politique, et je crois que j'aimerais... Et le général Bouléhi aussi a soulevé ça d'une manière ou d'une autre. Cette période d'agitation a eu aussi comme effet cette tentative de résurgence de groupes armés et cette tentative d'instrumentalisation. Il ne faut pas non plus oublier. Bon, ça c'était un facteur politique. Un facteur politique qui a eu un effet de généralisation sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan régional. Tout le monde, voilà. Après les élections, c'est aussi cette période que nous connaissons ici. C'est la période post-électorale, mais qui reste encore fragile. Il ne faut pas non plus oublier que nous serions encore toujours dans cette période d'agitation politique, puisque le cycle électoral n'est pas encore terminé. Et qu'avec les élections qu'on projette, les élections municipales et locales, sont des élections d'un enjeu local important qui peut permettre, qui peut faire en sorte que les problèmes politiques qui n'ont pas trouvé de solution puissent être instrumentalisés. Et aussi, il faut comprendre que dans cette région-là, nous avons toujours un déficit sécuritaire. C'est que le problème sécuritaire, le vrai problème de l'Ituri, qui consacre aujourd'hui la crise sécuritaire permanente, persistante, n'a pas encore trouvé une réponse adéquate sur le plan de l'efficacité, sur le plan réel. Hein, il faut aussi, lorsque je parlais des déficits sécuritaires, signaler aussi la persistance des groupes armés. Les groupes armés sont toujours opérationnels dans cette région-là. On n'a pas réussi à éradiquer, à neutraliser les groupes armés d'une façon, en tout cas, efficace ou définitive. Il y a encore des groupes armés qui sont là, qui ont des revendications bizarres, des revendications tantôt à caractère politique, tantôt à caractère économique, tantôt à caractère social. Cette ambiguïté-là de groupes armés qui parfois réclament, bon, voilà, il faut qu'il y ait le changement de pouvoir, il y ait parfois qu'on nous intègre, qu'on nous entende. Et tout ça a comme conséquence que les conflits qui se passent là ont tendance, dans une région fragile, ou parce qu'il existe cette fragilité en Ituri, et chaque fois qu'il y a un conflit, la tendance est de pouvoir l'instrumentaliser, de lui donner une connotation ethnique, même quand le conflit n'est pas ethnique. Comme celui-ci, je continue à comprendre, à persister, que le conflit n'est pas ethnique. Mais le conflit paraît, à mon avis, politique, sous-régional, par le fait que les armes circulent en désordre, les groupes armés sont encore là, et qu'on n'a pas réussi à les neutraliser. Malheureusement, on a tendance, dans le cadre de cette région de l'Ituri, de donner à chaque groupe armé une coloration ethnique ou sociale, mais sans oublier que ces groupes armés ont aussi des bases sur le plan politique, et des leaders qui les soutiennent. Et il y a aussi des armes qui leur sont fournies, et il n'y a pas une volonté politique au niveau des forces de sécurité et de défense pour vraiment éradiquer ces groupes armés.
Merci Timothée Tshaombo Choucha, chercheur en coopération, prévention et résolution de conflits à l'Université de Louvain en Belgique. Comment vous analysez cette insécurité en Ituri?
Oui, l'ensemble des questions, des facteurs qui pourraient contribuer à la résurgence de ces conflits en Ituri ont été épinglés par mes collaborateurs, notamment Mohamed Boulet et Ismaël Kikengé, que je salue. Mais moi, je voudrais rentrer à la nature même de l'émission, enfin, je veux dire du thème. On découvre 140 corps en brousse. Et puis le week-end, c'était 38 corps. Mais généralement, Mohamed Boulet l'a dit, dans nos villages, lorsqu'il y a même une confrontation, une bagarre entre deux individus, tout de suite, c'est le village voisin qui sait qu'il y a eu bagarre entre tel et tel. On sait dans nos villages comment ça fonctionne. Comment on peut tuer 140 personnes dans un village et ça passe sous silence lorsqu'on sait que la région de Bounia, la région, je veux dire, de l'Ituri, la région de Béni, par exemple, sont des régions à forte concentration des forces armées. Comment on pouvait tuer 140 personnes comme si on a déjà creusé un trou, une fosse, et on conduit une personne, une par une, à l'abattoir. Parce que lorsqu'il y a confrontation ou affrontement entre deux villages ou entre deux communautés, tout de suite, on voit les dégâts collatéraux et on sait les compter, on sait voir la scène. Mais là, carrément, c'était comme si on conduisait du bétail à l'abattoir. Et il a fallu une semaine, quelques jours, pour que la population découvre cela, parce que les corps sont en décomposition, et que les services se réveillent. Nous posons la question, sous réserve des enquêtes que nous voulons plus larges, hein, des autorités aussi nationales, provinciales que locales, mais aussi des autres organisations non gouvernementales, sous réserve de ces enquêtes, disais-je, il faut soupçonner premièrement, l'incapacité de service de renseignement à tous les niveaux. Deuxièmement, la complicité, parce que la question, elle est pratiquement politique. Parce que la nature, lorsque nous interrogions par moments les Hema et les Lindous, quel est le véritable problème qu'ils ont? Vous avez parlé de la marge entre pratiquement les 17 ans d'accalmie. On vous dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, la population a appris à vivre ensemble et à vaquer à leurs occupations. Donc, il y a une main noire, aussi bien du point de vue endogène et exogène. Je parle d'endogène au niveau des enjeux politiques. Les enjeux politiques, dès lors, vous voyez même la complication de la sortie du gouvernement, le tiraillement qu'il y a au niveau du ministère régalien qui concerne notamment l'intérieur et la défense, il y a lieu de soupçonner une main noire des acteurs politiques et nous voudrions que les enquêtes soient menées, mais des enquêtes indépendantes. On ne peut pas avoir la perte de plus de 100 personnes et que ça passe sous silence comme ça. Le chef de l'État doit se réveiller pour activer tout ce service afin que lumière soit établie à cette situation.
Timoto Chaombo, vous parlez d'une main noire du point de vue endogène et exogène. Du point de vue endogène, peut-on parler des hommes politiques qui tireraient, n'est-ce pas, les ficelles à partir de Kinshasa? Est-ce que c'est une hypothèse qu'on peut exclure?
Ils ne sont pas qu'à Kinshasa, ils sont partout, sur toutes les étendues du territoire national. C'est une des hypothèses, parce qu'en réalité, on parle, vous voyez, nous vivons encore les fièvres, je veux dire, les symptômes de la crise post-électorale qui n'est pas encore derrière nous. Nous avons les élections locales qui doivent venir. Toutes ces questions face à la région elle-même, la région de Bounia, Bouta, toute cette région du Ituri, c'est une région riche. Et que par rapport au partage, je veux dire, des ressources, il y a positionnement. Ben, il faut dire aussi, je parlais de l'influence exogène, il faut parler des régions, des pays voisins qui, eux aussi, ont, je parlerai directement du Rwanda, par exemple, qui prend tout le nord Kivu, la province orientale, comme une chasse gardée, parce que toutes les troupes, j'attends parler des interventions éventuelles des armées ougandaises, je veux dire, burundaises et rwandaises qui interviendraient, je ne parle au conditionnel, ben, il faut vous rappeler que toutes ces troupes, lorsqu'elles arrivent en RDC, elles ne rentrent pas dans leur pays d'origine en totalité. Ce sont des gens qui restent dans la région et les services des Nations Unies l'ont approuvé plusieurs fois. Et donc le Rwanda considère le Nord Kivu comme la province orientale, comme une chasse gardée. Et les troupes secrètes de l'armée rwandaise se trouvent au sein des FARDC, au sein des services
services spéciaux, au même moment que la République d'Ouganda, qui a visiblement de l'intérêt parce que nous faisons frontière avec ce pays-là par rapport à ce grand projet de l'exploitation du pétrole, le Rwanda, l'Ouganda qui est en conflit avec le Rwanda, se trouve dans une situation telle que elle estime que le Rwanda envoie des unités spéciales pour contrer toute éventuelle attaque ou toute éventuelle sécurisation de ce périmètre de richesse de la manne pétrolière. Et donc nous pouvons assister à une situation qui correspondrait à une épuration ethnique, non seulement dans la nature à ramener certaines populations dans ces régions, mais aussi pour ce pays voisin de contrôler l'éventuel, parce que jusqu'à présent, la RDC n'a pas encore franchi un pas par rapport à cette situation d'exploitation du pétrole, alors que de l'autre côté, les infrastructures sont déjà mises en place pour commencer le début de l'exploitation de ces mines pétrolières. Donc, il y a des conséquences aussi endogènes, d'influence endogène qu'exogène.
Merci, honorable Mohamed Boulay. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient des Isangi.
Peter Wenda, depuis Isangi, dans la province de la Tchopo. La persistance de la sécurité dans l'est du pays laisse croire qu'il y a un agenda caché derrière les apparences, car c'est inadmissible de voir les mêmes drames se répéter plusieurs fois sous l'œil impuissant de l'autorité, pendant que ces dernières sont chaque fois tenues informées de la situation. Combien de morts faut-il dans ces pays pour que les autorités prennent leurs responsabilités en main? Pourquoi le gouvernement congolais intervient toujours en retard après que les atrocités aient causé mort d'hommes et avec une faible implication? À quoi servent toutes les opérations militaires menées par le gouvernement dans cette partie du pays? Pourquoi le gouvernement congolais ne s'investit pas en fort avec tous les moyens qu'il a pour mettre fin à cette situation qui a commencé à Beni et aujourd'hui à Ituri? Quel est le véritable rôle des services de sécurité dans ces pays? Où était la MONUSCO pendant le massacre? Face à cette litanie de questionnements et la façon dont le gouvernement central gère ces dossiers, il y a à confirmer l'existence d'une main noire derrière cette tuerie.
Mohamed Boulay.
Merci beaucoup. Je crois que, en partie, ce que vient d'évoquer l'intervenant d'Isangi, j'ai eu à émettre des hypothèses possibles et potentielles. J'ai parlé des conflits communautaires. S'agit-il de conflits communautaires? Est-ce qu'il y a-t-il absence de cartographie pour que, au niveau des chefferies, groupements, qui est cela? Est-ce qu'en ce qui concerne les conflits fonciers, je ne crois pas que dans ces villages-là, il y a une exploitation, mais bien entendu, sur les lacs, il y a des projections de l'autre côté qu'on commence déjà à exploiter. Et dans cela, il y a un conflit lié, certainement, un conflit de crise sociale. J'ai parlé des repositionnements des acteurs politiques face aux enjeux économiques et miniers, notamment pétroliers. Ça, ce sont des hypothèses qu'il faut analyser. Bien sûr, la MONUSCO ne peut pas se déployer dans tous les 6 et chefferies et 4 secteurs d'Ndjougou. Ça aussi, c'est quand on parle de souveraineté, c'est aussi cela. Je crois que chaque matin, au gouvernement de la République, bien que le gouvernement actuel, les membres qui sont là sont en train d'assurer les affaires courantes, il y en a un qui chaque jour doit faire la situation, la cartographie de ce qu'on appelle l'état du territoire national. Je crois que c'est au ministère de l'Intérieur. Et bien entendu aussi, les autres ministères. Pourquoi pas la décentralisation? Et donc, il y a ce problème parce que ils sont pas similaires. Les tueries se déplacent. Tantôt, on est dans Irumou. Quand on quitte Irumou, peut-être dans la périphérie même de Bounia, dans certains chefferies au secteur. Et puis, ça répare, ça revient là-bas. Rappelons-nous en son temps. Pour prévenir cela, n'est-ce pas qu'on avait installé toute une unité commando au Montawa pour prévenir cela, pour que les gens cessent de s'entretuer? Il y a certainement la quête des leadership pour ce positionnement.
Mais pourquoi, à votre avis, pourquoi il y a eu ces relâchements? Parce que, vous le dites, il y avait des efforts qui avaient été fournis à l'époque pour prévenir ce genre de conflits. Dismas Kitenge a évoqué, n'est-ce pas, la volonté politique qui était manifeste, le déploiement des forces de la MONUSCO, l'accompagnement de la population, la réponse judiciaire. Pourquoi, à votre avis, il y a eu cette sorte de relâchement?
Relâchement, qu'on pose la question responsable. Il y a des responsabilités constitutionnelles. le gouvernement central a ses responsabilités sur les pieds de certains articles de notre Constitution. Et des compétences donc exclusives et des compétences concurrentes et la province. Chaque province a ses compétences exclusives. On ne peut pas parler aujourd'hui qu'il y a relâchement. Donc, qu'on cherche qui ont fait quoi, s'ils ont omis de prendre leurs responsabilités, parce qu'ici la société civile, telle que nous évoquons avec ceux qui posent des questions, nous n'entendons pas quelles sont les mesures localement prises au niveau du territoire du Djougou, au niveau des chefferies Bahéma, et aussi par solidarité, qu'est-ce que les autres chefferies Bahéma, Badjere, Banyal, Kilo, chefferie Mambis, et tous ces chefferies et secteurs du Djougou, qu'est-ce que de manière de solidarité, effort de solidarité ont-ils fait? Comment les gens peuvent-ils s'exfiltrer de cette zone de tuerie, permettez-moi le terme, et peut-être se jeter à la nage sur le lac Albert pour traverser et que le service ne puisse pas, et encore moins que les populations ne puissent pas les dénoncer? Ce sont les grandes interrogations que moi je ne cesserai de me poser.
Il ne faut pas écarter l'hypothèse d'une main noire, selon Timothée Tshaombo Soutcha.
Mais la main noire, ceux qui sont, qui vivent ensemble, qui partagent même des villages, mais ils sont capables de nous dire qui. Parce que ceux qui tuent, je l'ai dit l'autre fois, ce sont leurs propres enfants aussi qui sont là, incontrôlés, qui ne peuvent pas être dénoncés. Et c'est à eux à dénoncer. La sécurité doit commencer d'abord en famille. L'autre fois, j'ai aimé à ce que l'honorable Paluku disait toujours, les Nyumbakoum et tout ça, comment dans un village peut-on arriver à tuer 140? De quelle manière? Par quels moyens? À coups de bâton, on les a égorgés, par balles et tout ça. C'est bien vrai, la circulation des armes de ces côtés-là. Il y a un pays limitrophe, je m'interdis de les citer, mais qui est fabricant des armes de petit calibre et la traçabilité des armes là-bas. On trouve, quand on arrête les gens, on les trouve avec des armes au même type, pimpant, neuves, avec des munitions. Comment ils peuvent les acheter? Et parce qu'il y a aussi la porosité de nos frontières, il y a la complicité, parce que de l'autre côté, l'Ouganda a donc s'est débarrassé de tout ce qui pouvait nous faire LRA. Il est très très loin. On les a dispersés, ils sont partout, ils sont à l'aise. Et de l'autre côté, des Béni là-bas, mais fort Porta n'est pas loin de là, mais jamais on en prend qu'il y a eu ceci de l'autre côté.
Merci.
Et donc c'est ça le malheur. Donc il faut une coopération, une diplomation offensive pour dénoncer cela, pour trouver des solutions.
Merci. Dismas Kitenge, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu au sud de Kivu.
Mon père, Mahomet de Bukavu, au sud de Kivu. Cette situation est à déplorer. C'est sans doute la conséquence du fait que les différents conflits ou tensions qui ont toujours secoué la province de l'Ituri n'ont jamais trouvé leur vraie solution. Ils ont des solutions à leur mesure. Continuer à s'arrêter à ce niveau-là appellerait à marquer le pas par rapport à cette situation. Ce qui serait que l'on tournerait toujours en rond. Je pense qu'il serait alors mieux de s'attaquer aux vraies causes de ces problèmes plutôt que de s'éterniser inutilement à s'attaquer à leurs conséquences. Auquel cas, il n'y aurait jamais de solution durable à ces phénomènes. Le gouvernement congolais reviendrait la tâche, à moins que sa volonté politique n'y soit pas.
Dismas Kitenge.
Merci beaucoup. J'ai suivi ce que l'auditeur de tout à l'heure a dit, l'intervenant. Il souligne, il reconnaît comme moi, je l'avais dit, qu'il y a insuffisance de volonté politique. Volonté politique, c'est-à-dire mettre le moyen nécessaire, analyser, identifier les causes, les acteurs du conflit et leurs complices, comme j'avais dit autrefois que le parti en conflit, c'était d'abord les groupes armés. La présence des groupes armés, en dehors de problèmes politiques que j'ai mentionnés et qui se répercute aujourd'hui avec les enjeux des élections. On sait que les élections ont été aussi sur le plan politique un élément déclencheur ou un élément facilitant les conflits. Les frustrations électorales, les positionnements des leaders et les cycles électoraux n'est pas encore terminé, comme je l'avais dit. Donc tous ces facteurs-là. Sans oublier aujourd'hui que La difficulté, c'est que d'un côté, le gouvernement ne met pas le moyen nécessaire, ne prend pas la situation, la crise sécuritaire en Ituri au sérieux pour déclencher tout le mécanisme de sa résolution, faire de ça une priorité. Deuxièmement, de l'autre côté, il y a aussi ces manques de stratégie, de forces internationales telles que la MONUSCO. J'ai mentionné l'autre fois, je reviens encore là-dessus, la brigade d'intervention spéciale de la MONUSCO qui a le mandat spécifique de neutraliser les groupes armés et qui a montré ses forces, ses capacités dans le Nord Kivu lors de la traque contre le M23 en 2012-2013. Juste 2014, ça a donné un résultat. Je pense qu'il faut le faire, puisque nous avons un précédent heureux à l'Ituri qui a contribué à la pacification, c'est la force Artemis. La force Artemis avait traqué les groupes armés avec une puissance de feu extraordinaire à l'absence de l'État congolais en face des groupes armés. Ça a donné un résultat. Je pense que cette expérience-là devrait être encore mise en œuvre. Dans le cadre de l'Ituri, la brigade d'intervention spéciale de la MONUSCO existe. On lui donne ce mandat-là. Il faut qu'elle soit déployée à l'Ituri et qu'elle se mette en action. Ce qui est aussi très important, l'impunité. L'impunité aussi favorise la présidence de crise. J'ai donné l'exemple de la fois passée où on a mis la main sur le principal leader des groupes d'armées. Et aujourd'hui, on connaît les groupes d'armées qui sont là. Et malheureusement, à un moment donné, le gouvernement a tenté d'élever l'option de dialogue. Moi, je dis toujours et je le répète, on ne peut pas dialoguer avec les gens qui ont les armes, qui tuent. Donc, ce sont des gens qui méritent d'être neutralisés, mis à la disposition de la justice et puissent avoir les sanctions qu'il faut. Donc,
merci Timothée Chaombo Soucha. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Son trésor Kandolo depuis Kisangani. Ce qui se passe en Ituri est le fruit de l'impunité qui est toujours décriée en RDC. Les auteurs matériels et intellectuels de ces crimes sont bien connus, mais ne sont toujours pas inquiétés par la justice. Et ceux l'ayant été se voient bénéficier des grâces au nom des fameux compromis politiques, raison pour laquelle la population se livre à des vengeances privées. Il est temps que le rapport mapping soit mis en application et que la loi sur les chambres mixtes spécialisées soit votée par le Parlement pour que les auteurs de ces crimes soient effectivement poursuivis en remontant depuis les années 1990.
Timothée Chaombo Soucha.
Oui, l'auditeur Kandolo a parfaitement raison. Les co-débatteurs l'ont évoqué aussi. La volonté politique, lorsqu'elle n'est pas, les institutions de la République sont pratiquement quasi inopérantes. Vous avez la justice, on connaît qui fait quoi dans la région, on les appréhende et quelques semaines après, ils sont en liberté. De mon point de vue, je suggère. Peut-être qu'on ne peut pas encore arriver au moment de suggestion. Il faut savoir que dans les pays voisins, par exemple, les groupes armés ont été une fois pour toutes éradiqués. Au moment où nous parlons, les pays voisins, immédiatement l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et d'autres pays, sont en train de décoller en termes de développement. Il me semble que le moment est arrivé pour qu'en réalité, le service de l'État, en commençant par le président de la République, prenne la responsabilité de donner des moyens aux FARDC. Lever les militaires qui sont au Kivu et même en Ituri. Tous ces militaires doivent venir au recyclage à l'ouest du pays et prendre les militaires congolais du Katanga, de Mbujimayi, de Kananga, du Bas-Congo, de Kinshasa, qui sont originaires de l'ouest et les affecter là-bas, de sorte que l'on puisse leur accorder des moyens. Nous avons l'expérience de plusieurs officiers congolais qui se sont distingués sur les champs de bataille. Le moment d'arriver, ce n'est pas l'intervention de l'Ouganda, l'intervention du Rwanda ou du Burundi qui va venir. Et nous avons connu plusieurs opérations conjointes, mécanismes conjoints qui ont échoué. Nous devons donner des moyens aux FARDC, des moyens à la police. Nous avons plus de 23 coopérations militaires avec différents pays du monde. Mais il s'agit ici de la volonté politique. Et un dernier élément que je voudrais ajouter.
Et ça coïncidait très bien pendant les négociations de répartition des postes. Mohamed Boulay, que je salue l'analyse, a parlé du domaine des collaborations. Effectivement, l'armée, la justice, je veux dire la défense, la justice intérieure sont des domaines de collaboration. Mais dans le cas d'espèce, les chefs de l'État, bien que ce domaine relève de la collaboration, mais le chef de l'État doit les posséder. Le chef de l'État actuel fait le fils, c'est-à-dire ne doit pas, sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque chantage que ce soit, céder le ministère des souverainetés, notamment la défense, l'intérieur, la justice, parce que les Congolais attendent le chef de l'État, pas par rapport aux routes, pas par rapport à l'agriculture, mais la priorité c'est la paix, parce que cette population, la population congolaise, est une population qui sait travailler. Donc, oui, ce sont des domaines de collaboration, mais c'est le chef de l'État qui doit posséder ce portefeuille-là.
Merci. Mohamed Boulay, nous allons conclure. Hein. À votre avis, que faut-il pour pacifier de manière durable la province de l'Ituri? Vous avez suivi M. Dismas Kitenge qui a relevé le fait que nous avons des difficultés pour donner des réponses adéquates à ces problèmes qui sévit en Ituri. À votre avis, quelles sont ces réponses adéquates?
De manière globale, il faut une approche globale pour toute la République. Il n'y a pas que seulement Ituri, les Bazuélé, ma province a aussi des problèmes avec l'Embourou, avec tout ça. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant que on a des nouveaux gouverneurs des provinces? Il faudrait que absolument, lors de la première conférence des gouverneurs, que chacun des gouverneurs s'amène avec la situation réelle. C'est-à-dire la localisation, les acteurs, les causes, la situation réelle, sécuritaire et sociale. Pour que, à ce niveau-là aussi, au niveau de l'armée, que le président de la République, qui est le commandant suprême, c'est lui qui préside le Conseil supérieur de la défense. Et le Conseil supérieur de la défense, le haut commandement militaire prépare les dossiers à lui soumettre pour que ce soit formellement inscrit. Nous n'avons cessé de parler de cela. Et de cela, alors, on va tirer les conséquences pour se projeter et voir quelles sont les dispositions qu'il doit prendre par les décideurs pour mettre fin, pour éradiquer ceci. Et surtout, j'insiste, la réforme des services de sécurité. Merci. Parce que des faillances sont visibles.
Merci, Dismas Kitenge. Vous allez aussi conclure. Hein. Il faut une approche globale, n'est-ce pas, pour apporter des solutions adéquates à ces questions qui touchent à l'insécurité, non seulement à l'Ituri, mais à travers toute la République, comme l'a dit l'honorable Mohamed Boulay.
Et en plus de cette approche globale, il faut la priorisation. Et la priorité des priorités dans ces problèmes-là, c'est renforcer le force de sécurité et de défense. Deuxièmement, c'est neutraliser les groupes armés. Troisièmement, lutter contre l'impunité et ces graves violations des droits humains du droit international. Quatrièmement, c'est impliquer les communautés, les populations locales à la pacification. Et cinquièmement, c'est aussi avoir une résolution, une vision globale de la résolution. Merci. Du problème.
Timothée Chiambo-Toucha, votre conclusion?
Ituri n'est pas qu'une crise nationale, mais il est aussi...
Timothée, votre conclusion?
Oui, la conclusion, c'est qu'il faudrait que les institutions de l'État fonctionnent. Il faut qu'il y ait application sérieuse de la volonté politique en établissant la justice qu'il faut, redorer la justice, mais en même temps donner des moyens. On a parlé des réformes des services secteurs de l'armée, de la police et des services spéciaux. Réformer ces services, leur donner des moyens. L'armée congolaise est capable d'éradiquer tous ces groupes armés.
Merci. C'est la fin de cette émission et bon suite de programme sur Radio Okapi.